France Culture, 18h18 précisément. Emmanuel Hogue est directeur général des Nouvelles Éditions Indépendantes. C'est le nom de ce groupe média du banquier, du banquier punk Mathieu Pigas, qui comprend notamment Les Inrock, Radio Nova, le Festival Rock en Seine ou encore Chic Magazine. Comment on dit exactement? Comment on traduit ce mot?
Chic.
Ça veut dire les joues, tout simplement. Mmh. Chic Magazine.
Oui, puis c'est un jeu de mots entre chic, chic. Hein.
Le culot aussi, un peu le toupé en anglais. Vous êtes également et indirectement Emmanuel Hogue, donc l'un des actionnaires du groupe Le Monde, puisque
pas moi personnellement, mais enfin le...
en tant que représentant de Mathieu Pigas dans ce groupe, puisque vous le représentez à la tête du groupe. On reviendra sur ces questions, mais on va peut-être commencer par la base, c'est-à-dire Les Inrock, Radio Nova, Rock en Seine. Est-ce que vous voyez une cohérence, comment dire, dans un groupe média de ce type? Est-ce qu'il y a une sorte d'unité? Alors je dirais pas punko, gaucho, je sais pas trop quoi, mais non, il y a d'une certaine manière, qu'est-ce qui fait l'ADN de ce groupe?
Oui, il y a une grande cohérence dans ce groupe et il m'appartient de la révéler et de la valoriser. Elle tourne autour de la culture et de la musique. L'ensemble de ces marques ont un investissement très fort dans le domaine de la culture et de la musique et rassemblées sur le terrain du print, du web, du live... de la radio, pas encore de la télévision, mais peut-être, pourquoi pas un jour, sont des marqueurs, des points de référence incontestables et indiscutés dans le monde de la musique. J'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer beaucoup de patrons de labels, de responsables de salles de musique, maintenant un peu certains de mes homologues, de directeurs de festivals. Et Les Inrock, Rock en Seine et Nova appartiennent à un monde de la musique indépendante, novatrice, attentive aux avant-gardes. Et très rattaché à l'indépendance et à la musique indépendante. Donc
le live, c'est un élément...
Voilà. Alors après, si on rentre...
Il y a le Festival des Inrock aussi, on peut le dire. Les Inrock,
alors ils allaient relancer.
Alors il y a le Festival des Inrock, d'une part, qu'on va relancer puisqu'on va la nouvelle édition au mois de mars, au début du mois de mars, le 5, 6, 7 mars prochain.
Donc là, c'est une relance, hein, donc quelque chose qui avait été arrêté.
C'est une relance et, par souci de cohérence, puisque après, il m'appartient aussi de mettre en cohérence les marques les unes avec les autres, c'est Rock en Seine qui, à travers un certain nombre de tremplins, feront les premières parties de chaque soirée présentant un jeune groupe de rock francilien. Donc, Rock en Seine et Inrock vont travailler ensemble, mais on n'a pas parlé de Nova, enfin on aura l'occasion, je pense, dans les prochaines minutes d'en parler, mais font ce qu'on appelle les nuits zébrées, c'est-à-dire des lives dans une dizaine de manifestations dans la France entière, dont 3 ou 4 par an à Paris, et qui sont l'occasion de s'ouvrir à de jeunes talents. Angèle a commencé aux Nuits Zébrées de Nova, donc voilà.
Mais c'est un début du groupe, donc finalement, donc, de lancer les nouveaux talents.
Il faut, en fait, c'est un groupe qui a toujours été attentif aux nouveaux talents, puisque la playlist de Nova, les premières parties de Rock en Seine ont toujours été attentives aux premiers talents, et les Inrock sont un des lieux où, quand vous êtes pour la première fois, vous avez créé un morceau, vous commencez avec un disque, ou en tous les cas, ça s'appelle plus un disque, mais enfin...
Un EP.
Un EP. Un des premiers endroits où vous frappez à la porte, c'est les Inrock ou c'est Nova pour vous faire entendre ou vous faire connaître. Donc en fait, au-delà des esthétiques ou des couleurs respectives de chacune des marques, les Inrock sont plus tournés vers le rock anglo-saxon, Nova est plus tourné vers la world music pour simplifier un tout petit peu. Mais si on met au-delà de ces marques et de ces couleurs qui doivent être absolument préservées et gardées parce qu'elles forment l'ADN de chacune des marques, l'idée de nouveauté, de découverte, d'avant-garde sont absolument centrales et font vivre les équipes au quotidien. Je permet d'ailleurs de le dire ici, des équipes de très grands talents.
Mais justement, ces différentes entités vont être rassemblées dans un lieu que j'ai visité.
Elles sont rassemblées.
Elles sont déjà rassemblées. À Saint-Ouen, donc dans un quartier un peu en gentrification.
À Paris, mais...
Troisième étage côté Paris. Trois étages d'un bâtiment d'ailleurs de la ville de Paris, où il y a aussi des labels indépendants que vous avez associés. C'est très moderne, c'est assez beau. Il y a des cantines, c'est un peu comme ça, bobo, etc. Ça contribue aussi à cette ADN que d'avoir tout le monde dans un même lieu.
Effectivement, pour faire travailler les gens ensemble, c'est globalement quand même plus simple de les faire travailler dans un même lieu. Il m'appartient de faire rencontrer ces équipes qui, pour certaines, se connaissaient, mais pour d'autres, ne se connaissaient pas. Donc, elles commencent à travailler ensemble. Et puis, comme ce sont des personnalités, des talents pleins d'énergie, naturellement, quand on met des gens de talent et d'énergie dans une même pièce, ben, au bout d'une heure, il en sort des projets et des idées. Parfois pas assez, mais parfois trop. Donc ouais, après, c'est à moi d'organiser un tout petit peu les choses. Mais c'est cette nouvelle dynamique, c'est ce nouveau souffle commun qu'on est en train de mettre en place autour d'un certain nombre de projets qu'on va dérouler dans les prochains mois ou dans les prochaines années.
Alors, il y a l'idée effectivement d'usine à podcast, il y a une idée, on va en parler évidemment de vos ambitions en matière de télévision, même si elles existent déjà, puisque vous avez une société de production qui s'appelle La Production, qui travaille pour aujourd'hui les télés publiques, on ne le sait pas nécessairement.
Et M6, c'est vrai.
Et M6 aussi. Et puis on parlera peut-être de vos rapprochements potentiels avec Vice Media, mais au-delà de ça, vous évoquiez là les Enroc et Radio Nova, qui sont effectivement deux marques, utiliser le terme de marque, mais de médias extrêmement forts. Et en revanche, on a peut-être un petit peu du mal à comprendre la stratégie qu'il y a eu depuis la reprise en main par Mathieu Pigasse, puisque quand il est arrivé aux Inrocks, il a voulu mettre l'accent sur l'enquête, il a recruté des enquêteurs, puis finalement, il a fait machine arrière. Aujourd'hui, vous revendiquez effectivement cette grande synergie du côté de la musique, et il y a eu des vraies hémorragies du côté des équipes des Inrocks, et je crois que l'année dernière, il ne restait plus qu'un seul journaliste musical, deux, en tout cas, moins de 30 ans pour la plupart d'entre eux. Vous évoquiez le côté musique du monde, le côté rock, et le grand, on va dire, perdant, c'est le rap, qui est quand même un peu le style qui émerge. Comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé aux Inrocks ces dernières années, sans parler même de la couverture sur Bertrand Cantat qui a fait fuir une bonne partie de vos abonnés?
D'abord, quelle le est rap, la stratégie c'est pas le style qui émerge. Ça fait au moins 15 ans qu'il a...
Non, le mainstream, qui s'est mainstream.
Voilà, 40 ans. Ça fait quand même un tout petit
peu de temps qu'il a
émergé. Et donc d'ailleurs, certains pensent qu'il s'est substitué à la variété d'aujourd'hui. Et
d'ailleurs, c'est les Inrap que vous allez annoncer ce soir.
Pardon ?
Les Inrap.
Et non,
pas des rocks.
Certains disent d'ailleurs qu'il va y avoir un retour du rock, et de toute façon c'est des cycles. Hein, donc de ce point de vue-là, je crois qu'il faut rester assez modeste sur l'idée qu'un style musical ou un autre l'emportera définitivement. Donc aujourd'hui, la cohérence de ces marques, à l'évidence, c'est la musique. Hein. Après, il peut y avoir musique plus enquête. Musique plus instigation, etc., etc. Mais ce qui, en tous les cas, en
vous
fait
avez
la,
recentré
la
sur
cohérence,
la musique. Vous avez voulu recentrer sur la musique.
C'est pas se recentrer, c'est au contraire s'élargir et s'agrandir sur la musique. C'est pas du tout une restriction. C'est surtout donner de la cohérence et de faire ensemble ces marques toutes seules dans un monde médiatique très compliqué où la concurrence, voilà, vous le dites à longueur d'émission, c'est des choses que voilà l'expérience m'a apprises. Le monde des médias est un monde excessivement compliqué. Donc l'union fait la force. Hein, et le rassemblement des talents dans un monde qui est excessivement atomisé, compliqué, où la valorisation des contenus est très très difficile à faire. Il faut mieux rassembler les talents avec des marques différentes, avec des bannières différentes, des styles différents. Et ça, il faut absolument préserver cette diversité de marques. Mais en même temps, on voit bien qu'on est dans un univers globalement qui est culturel et musical, qui n'est pas que musical. Hein, donc faire vivre ces talents ensemble et de développer des projets autour des contenus. Vous évoquiez les podcasts, évidemment. On a reporté récemment un appel d'offres de la SACEM pour développer un certain nombre de podcasts pour eux. On le développe pour un certain nombre de marques aussi. Il y a un vrai savoir-faire et un vrai talent des équipes. Et donc c'est l'ensemble. Renouveler le web, effectivement, sur Nova et sur les Inrocks. Travailler à la relance de l'ensemble de ces marques et voir si, ensemble, on peut pas faire aussi des choses nouvelles. Hein. C'est-à-dire que, naturellement, Vous évoquiez le Festival des Inrocks, mais le faire avec Rock en Seine, c'est nouveau. Et puis, peut-être qu'on reparlera de Rock en Seine, mais développer la présence de Rock en Seine, pas simplement le dernier week-end du mois d'août, mais essayer de développer d'autres manières de positionner le festival tout au long de l'année en Île-de-France ou autour de la Seine, ça, ce sont des projets. Et Nova aussi, on a un certain nombre de projets sur Nova.
Mais alors Nova, alors je suis désolée, je repose la question un peu méchante, mais Nova, on l'a vu quand vous êtes arrivé, d'ailleurs que vous avez repris en main finalement, il y a eu la fin de cette matinale d'aucuns ont dit mythique, animée par Edouard Baird.
C'était fait avant que j'arrive.
Avant que vous arriviez, donc qui était vraisemblablement trop coûteuse. Il y a eu des lancements de certaines émissions culturelles un peu à haute valeur ajoutée finalement, sur lesquelles vous êtes revenu dans la grille, comme si vous vouliez effectivement, d'une certaine manière, parce qu'on sait qu'il y a des problèmes de recettes publicitaires avec Nova, vous avez annulé une tournée, je crois, cet été, une tournée d'été de Radio Nova, non ?
Non, j'ai pas... non, ça, c'est ce que vous avez lu dans
un... Oui, que j'ai lu partout.
Vous l'avez lu dans un seul endroit, mais bon, c'est...
Quel projet pour Radio Nova ?
Mais Nova, c'est une radio musicale qui est absolument extraordinaire et qui est absolument unique dans le paysage radiophonique.
Qui a d'ailleurs progressé en audience, certes légèrement, mais malgré tout un petit peu.
Et qui est absolument extraordinaire. Elle diffuse, je me permets, là on est dans une radio, de dire des choses un tout petit peu sérieuses. Elle diffuse...
Et on vous laisse le dire à France Culture.
Plus de 1000, entre 1000 et 1200 à 1300 titres différents par mois. Là où les autres radios musicales, pour d'autres raisons, il y a des quotas, etc., diffusent 200 à 300 titres. Donc la proposition musicale de Nova, c'est une proposition qui est 4 fois ou 5 fois supérieure à l'ensemble des radios. Elle ne se ressemble à aucune autre radio en France, si c'était une seule, une radio de service public, qui s'appelle FIP. Voilà, donc je voyais que vous allez... Bon, mais à part FIP et Radio Nova...
Donc il y a un projet de diversité.
Donc c'est un projet, c'est magnifique. Et là-dessus, on ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Et donc... Je pense que la proposition fondamentale de Nova, l'ADN de Nova, c'est ça. Voilà. C'est
après qu'il y aura des talks. Des émissions
autour de la musique. Quand vous proposez, quand vous discutez, je pense que vous avez des amis qui écoutent Nova, ou peut-être que vous-même vous écoutez Nova.
Qui sait?
Qui sait?
Elle n'osera pas le dire.
Je l'espère pour vous. Mais en tous les cas, pourquoi vous l'écoutez? Pour écouter de la musique. Fondamentalement pour écouter de la musique. Et pour écouter ce que vous n'entendez dans aucune autre radio, parce que vous aimez la musique, vous voulez entendre une musique différente, vous voulez découvrir ce qui est nouveau, et nous, les premiers talents passent par Nova. Ça, c'est la force de Nova. On n'est pas une radio de musique mainstream, en tous les cas, où on répète des tubes.
Mais alors, est-ce que ce qui est valable pour Radio Nova est valable aussi pour les Inrocks, à savoir nécessité de revenir aux fondamentaux, revenir au fond à ce qui faisait les Inrocks, peut-être avec la musique, plus que les questions de société, peut-être un peu plus de muscles, je crois que c'est une formule que vous aimez bien, plus de muscles, plus d'acidité, et parler aux lecteurs traditionnels, disons.
Il y a la musique, mais aussi, sous l'autorité de Jean-Marc Lalanne, il y a le cinéma, il y a les livres. Nelly Caprielan est une plume reconnue du monde littéraire. Et donc on a déjà 3 points forts. Il faut qu'on soit aussi fort dans le domaine des arts plastiques et donc de couvrir l'ensemble des champs culturels de manière forte, excellente et moi, je me permets quand même de faire partager.
Allez-y.
Voilà ce que j'entends et je ressens, c'est-à-dire l'envie quand même d'être dans les Inrocks. Quand quelqu'un produit ou fait acte de culture, acte de musique, une exposition. Je parle devant Stéphane Martin où à travers nos équipes, il y a un dialogue renoué sur les expositions à venir du Quai Branly. Oui,
mais alors quel est le problème? Pourquoi les Inrocks a malgré tout des difficultés dans la version peut-être hebdomadaire? Quelle est la solution? Il y a un problème de périodicité?
Elle a exactement... Les Inrocks sont confrontés à la difficulté auxquelles sont confrontés l'ensemble des magazines et l'ensemble de la presse. Ce n'est pas particulier aux Inrocks. Ce qui se passe aux Inrocks, c'est assez commun. Malheureusement, on peut le dire.
Et alors, comment on corrige ça?
Après, il n'y a pas de pensée magique. n'y a pas de solution magique, sinon on le saurait et on serait très heureux et quasiment votre émission pourrait presque s'arrêter parce qu'il n'y aurait plus de problème et la presse retrouverait la croissance et la valeur. Et donc, il faut densifier la proposition sur Internet, réfléchir à la question de la périodicité sur,
le retour à un mensuel pourrait être une solution.
Toutes les options sont sur la table. Il faut y
parce
réfléchir.
Parce que c'était un mensuel à l'origine.
Ça a été un mensuel, vous avez tout à fait raison. Ouais. Ça a été un mensuel à l'origine. Il est devenu hebdomadaire. Moi, je ne m'interdis aucune réflexion. Il faut réfléchir. C'est une réflexion qui est partagée avec les équipes. Et c'est quelque chose qu'on déroulera dans les années.
Et est-ce qu'il faut réengager des grandes pubs
dans les mois à venir, pardon.
Vous avez cité évidemment Jean-Marc Lalanne et Mika Prélian. On l'a dit, c'est un peu le paradoxe. Il n'y a plus de très grandes plumes musique parce que
Franck Verjade, qui est arrivé aux Inrocks il y a quelques mois, qui est une figure très reconnue et très très respectée. Je le vois de jour en jour par l'ensemble des labels et du monde de la musique. Peut-être qu'il y a eu un moment où il y avait peut-être moins de je sais à qui vous pouvez faire référence et d'ailleurs je les salue les grands anciens et que je les apprécie beaucoup et puis
il y a un modèle qui est inattendu et qui fonctionne, c'est celui du Guardian qui est d'ailleurs pas qui est un peu à l'opposé du modèle Mediapart. Le Guardian c'est un quotidien anglais qui est gratuit sur le web, donc le site est gratuit, ça leur a permis de monter à 1,35 à peu près millions de pages vues par mois. Il fonctionne d'abord sur la publicité, mais aussi sur les dons, avec un modèle qui lui permet de financer 750 journalistes. Au fond, ils ont supprimé des fonctions de support, comme on appelle, pour se reconcentrer sur la rédaction. Et les gens qui payent de manière volontaire, puisque ce sont des dons, ils savent qu'ils payent pour la rédaction. Est-ce que ce n'est pas des modèles à explorer pour un journal comme Les Inrocks ?
Moi, aujourd'hui, je ne m'interdis rien et l'ensemble de ces questions sont sur la table. De manière tranquille, posée, sérieuse. Mathieu Pigas est un actionnaire vraiment engagé auprès de ces marques. Donc tout ça se fait dans un contexte tranquille et posé. Mais effectivement, c'est des questions qu'il faut regarder très, très sérieusement.
Zoé ? Alors, est-ce qu'on peut parler justement de votre stratégie ? Parce que je sais que vous en avez une, et ce serait cohérent, sur l'image, la télévision. Donc, il y avait des velléités, je crois, de faire une télévision des Inrocks. Il y a eu un rapprochement avec Vice Media. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu quelle est la nature de ce groupe ? Pourquoi ce rapprochement, il a lieu sans avoir eu lieu ?
Non, aujourd'hui, c'est plus le...
C'est plus l'actualité.
Non, c'est plus d'actualité. Est-ce qu'il peut y avoir l'idée d'une télévision ? C'est un investissement qui est très lourd, une télévision. Le ticket d'entrée pour une télévision, c'est 40 à 50 millions d'entrées. Aujourd'hui, est-ce que nous avons 40 à 50 millions ?
Vous n'êtes pas certain.
Et puis, est-ce qu'il ne faut pas le mettre ailleurs ?
Certain. Et effectivement, c'est une bonne question, Frédéric Martel. Je pense que si... nous avions 40 ou 50 millions, peut-être qu'on pourrait faire autre chose, agrandir le groupe, enrichir le nombre de marques et de médias. En revanche, je pense que la radio numérique terrestre, le DAB+, nous offre des possibilités de développement de nos marques, et notamment des Inrocks dans le domaine de la radio. Nous avons une marque qui est très forte, qui est très liée à la musique, qui est très prescriptrice, qui est très identifiée. Et ça, c'est un sujet sur lequel nous travaillons très sérieusement.
Donc d'avoir une radio en rock qui ne serait pas, dont on essaierait qu'elle ferait, en concurrence avec Nova.
Peut-être.
Un petit scoop.
Le festival des Inrocks revient, la radio Les Inrocks va peut-être démarrer. Un mot sur Rock en scène, ça sera la 18e édition l'an prochain. Alors vous êtes en partenariat avec AEG, c'est un peu technique, mais disons que vous n'êtes pas seul à bord. C'est un peu l'anti-Live Nation, c'est-à-dire peut-être moins la grosse cavalerie, mais en même temps quand même des concerts de poids.
C'est des partenaires très forts, mais qui ont un positionnement, en tous les cas, différent de celui de Live Nation, qu'ils développent pas, on ne souhaite pas développer, en tous les cas, leur marque comme Coachella ou d'autres qui existent
un festival
par ailleurs.
En Californie.
Mais en tous les cas, c'est des partenaires très très sérieux. J'étais très heureux et ma nomination à la tête de LNEI avait coïncidé avec l'arrivée d'un...
LNEI, c'est le groupe.
Ça s'appelle les nouvelles sur les missions indépendantes.
Pardon, voilà. Peut-être aussi qu'en 2020, on fera peut-être évoluer aussi les choses.
Ça s'appelait le Zéroc aussi.
Je reviendrai pour vous, voilà, pour vous donner la suite. Mais en tous les cas, oui, j'ai été, ma nomination a coïncidé avec l'arrivée de Jim King à la tête d'un département des festivals en Europe. Et avec lui, on forme un tandem, voilà, très, très heureux et très fort. On travaille sur l'édition, voilà, de 2020. Ne me demandez pas, voilà, ce que, enfin, vous pouvez me le demander, bien évidemment, mais en tous les cas, je ne vous répondrai pas. Mais voilà, nous allons bientôt sortir.
Ce n'est
sortir,
pas la peine de faire mal à ce micro sous prétexte que vous ne voulez pas répondre à nos questions.
Et on est d'accord que c'est un petit peu le live aujourd'hui. On en parle souvent dans Soft Power. Oui. On a parlé des difficultés de la presse, des difficultés du fameux gâteau publicitaire dont on parle notamment à la radio, de la question aussi plus globale de la crise de légitimité de la prescription en matière culturelle. Le live, c'est aujourd'hui un endroit où globalement, c'est là où se concentre entre la valeur dans le domaine de la musique.
Alors,
donc c'est important pour vous.
Vous avez raison de le signaler. On voit bien que la filière musicale a souffert énormément. C'est un thème qui est revenu souvent, que vous traitez souvent ici. Aujourd'hui, sa croissance économique repart. La filière retrouve de la valeur et
avec le live, avec le streaming,
et voilà,
etc.
Mais dans une répartition naturellement qui est totalement différente de celle d'hier. Et aujourd'hui, les deux gagnants de cette redémarrage économique, c'est le live et c'est les plateformes. Donc les plateformes
Spotify,
pour nous,
Deezer, etc.
Voilà. Et les plateformes pour nous et notamment pour Nova nous complique les choses puisque aussi dans les audiences, les gens vont plus facilement, les auditeurs vont plus facilement écouter une plateforme où ils peuvent faire leur playlist que Radio Nova. Mais c'est à nous de trouver des solutions alternatives, d'être plus sur le web, de faire plus de playlists, etc. Et sur le live, on a les Arock qui font du live, Nova fait du live, les Rock en scène font du live, et donc là, il faut probablement être plus présent et plus organisé.
Emmanuel Hogue est directeur général des nouvelles éditions indépendantes, c'est-à-dire en fait du groupe du banquier Mathieu Pigas, Les Inrock, Radio Nova, Rock en scène, Chic Magazine et d'autres, on l'a dit. Venons-en à Mathieu Pigas et à notamment ses participations dans le groupe Le Monde, puisque à ce titre vous suivez aussi ces questions. Mathieu Pigas, je rappelle que c'est un banquier, donc qui est toujours PDG de la banque Lazard, mais il quittera cette fonction, je crois, à la fin du mois, de décembre. Et à l'origine, pour bien réexpliquer ce qui s'est passé, à l'origine, le groupe Le Monde a été en partie racheté par ce qui s'appelle Le Monde Libre. C'est une structure qui comprend notamment Aparité. Ils étaient trois actionnaires principaux, ainsi que Prisa, mais on ne va pas rentrer dans tous les détails. Ces trois actionnaires qu'on appelait BNP, c'était essentiellement c'était Pierre Berger, c'était Xavier Niel et Mathieu Pigas. Et puis, Pierre Berger est décédé, comme on sait. Ses parts sont aujourd'hui entre les mains d'un actionnaire, Madison Cox. Et puis Mathieu Pigas et Xavier Niel, qui s'entendaient très bien dans ce trio, se retrouvent en face à face et apparemment, sans rentrer dans les détails, il y a eu des tensions assez vives qui se sont traduites par une crise très forte au journal Le Monde cet automne. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Que s'est-il passé, Emmanuel Hogue, entre les actionnaires? D'abord, avec l'entrée au capital d'un certain Daniel Kretinsky, un millionnaire, milliardaire même tchèque, et ensuite avec la rédaction.
Alors, pour être précis, Daniel Kretinsky est arrivé dans la participation de Mathieu Pigas. Mathieu Pigas restant toujours à 51%
et lui 49%.
Et à 49%.
Et eux-mêmes ayant 27% à peu près.
Xavier Niel et Mathieu Pigas sont restés toujours co-contrôlants du Monde. Bon, un certain nombre de débats ont eu lieu entre eux. Voilà. Aujourd'hui, ces débats qui étaient compliqués ou difficiles sont derrière nous. Et aujourd'hui, l'intérêt général du groupe Le Monde est partagé par tous dans un rapport de discussion très positive, très dynamique. Xavier Niel a fait une proposition très forte et très engageante autour de la création d'une fondation pour l'avenir.
C'est une idée que Mathieu Pigas veut suivre.
Et c'est autour de cette idée forte voilà, que aujourd'hui chacun
est-ce qu'elle
travaille.
N'existe pas déjà cette fondation dans la mesure où le droit d'agrément qui a été finalement signé, on est finalement déjà dans une forme de fondation, un peu de type Mediapart, dans le sens où ça devient très compliqué de faire entrer un investisseur à un prix intéressant.
Oui, mais enfin, en tous les cas, oui, mais là on rentre un peu dans des sujets un peu compliqués, mais en tous les cas, la fondation crée de fait une incessibilité du capital, hein, ce qui n'est pas tout à fait le jeu du droit d'agrément qui permet l'accessibilité du capital et qui permet aux rédactions de donner son avis pour ou contre sur... Voilà, donc vous avez deux types de mécanismes. La fondation qui, elle, crée une accessibilité et puis l'agrément qui crée une option ou un droit de regard sur...
L'agrément des rédactions, voilà, et de ce qui s'appelle le donc pôle d'indépendance qui comprend les sociétés de rédacteurs, les sociétés, les personnels, lecteurs et actionnaires historiques.
Donc aujourd'hui, on est dans un environnement que chacun reconnaît absolument pacifié. Les actionnaires se parlent, travaillent.
C'est-à-dire qu'ils se parlent
dans
plus.
Dans une très grande qualité, je crois, et dans un très grand.
Et vous avez
sérieux.
Un peu joué les go-between là-dedans.
Et c'est autour de la fondation que chacun travaille. Projet. Je fais un petit pas de côté sur la fondation. Sujet sur lequel j'avais. Beaucoup de travail quand j'étais à l'AFP.
Oui, on y reviendra sur le conseil de déontologie et les questions de fondation.
Et voilà, avec quelqu'un qui était au conseil d'administration de l'AFP, qui est Julia Cagec, qui avait aussi
qu'on connaît bien,
et
qu'on a reçu en session. Mais une question peut-être pour comprendre la stratégie des différents acteurs. D'abord, Mathieu Pigas, donc banquier, qui a été assez absent en fait. Il n'était pas très présent au conseil d'administration du Monde, même si désormais il y revient. On l'a dit qu'il est un peu le banquier punk. Pour un peu continuer dans cette métaphore, pour reprendre le titre d'un album de Clash, should I stay or should I go? Il veut rester dans la presse, dans le monde, ou il veut partir? C'est quoi sa stratégie?
Entre Xavier Niel et Mathieu Pigas, voilà, c'est dans cette discussion entre eux, qui est une discussion quand même de partenaires
financiers
et d'amis depuis une dizaine d'années. Il appartient de trouver la solution et ils sont en train de la trouver. Ils ont considéré à juste titre que leur association a été un succès pour le monde. Ça a été un succès pour le groupe. C'est un succès. Les marques ont retrouvé du lectorat, ont retrouvé de l'audience, ont retrouvé, vous disiez du muscle tout à l'heure, mais enfin de la force.
Avec un directeur qui est Louis Dreyfus, qui est un proche de Mathieu Pigas, qui avait été d'ailleurs adoubé par Pierre Berger, mais qui s'est rapproché de Xavier Niel. On a vu aussi une tension.
Et donc, en tous les cas, sous la dynamique très forte de Louis Dreyfus, ces marques ont retrouvé beaucoup de force. Je pense qu'ils considèrent que ce succès d'hier et d'aujourd'hui mérite d'être pérennisé, voilà, sous la forme d'une
un mot sur Daniel Kretinsky, donc ce millionnaire tchèque qui a racheté cher son entrecapital dans le groupe Le Monde, dont finalement il ne peut peut-être pas totalement acquérir la part complète de Mathieu Pigas. En tout cas, ça a l'air compliqué. Il a eu une option pour acheter la totalité, selon vous?
Non.
Quelle est sa stratégie, Daniel Kretinsky? Comment vous l'analysez?
Il faut lui poser la question. Je suis pas le représentant de Daniel Kretinsky. Je crois qu'il souhaite se développer dans les médias en Europe.
Je crois avec dans son propre pays avec des médias délibérément, en tout cas dans leur ligne éditoriale, à leur début pro-européen, avec pour certains, sur notamment un site qui s'appelle info.cz, qui a été un site où il avait engagé de grandes plumes pour traiter de l'actualité européenne. Il y a eu un resserrement nationaliste très important ces derniers mois.
Il a aussi racheté Marianne.
Oui, et les magazines de Lagardère. Mais enfin, là, je ne suis pas le représentant de Daniel Kretinsky.
C'est davantage de Denis Oliven ou autre.
Oui, là, je dois dire que je ne suis pas...
Non, mais vous comprenez les stratégies. Parole, hein. Il y a aussi, évidemment, la place de Denis Oliven, qui est un ancien, qui avait tenté de racheter Le Monde avec une partie d'actionnaires, qui revient un peu au fond par la porte alors qu'il était sorti par la fenêtre, ou plutôt l'inverse.
Vos questions témoignent du fait qu'il y a eu un paysage qui a été compliqué ou difficilement lisible ou compréhensible. Aujourd'hui, Je crois que l'ensemble des parties prenantes, avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'engagement, et en mettant au cœur et en centre l'intérêt général des rédactions, des équipes éditoriales des différents titres du groupe Le Monde, sont en train de travailler à une solution qui sera dans l'intérêt de chacun.
Le droit d'agrément, c'est Mathieu Pigas a dit, cité par Anna Cabana dans le JDD, il a dit j'ai fait du jutsu, c'est-à-dire l'art du vide. C'est créer du vide pour retourner la force de l'adversaire contre lui-même. Ça veut dire que c'était pas très, il prenait pas ça très au sérieux.
Écoutez, ça je peux pas commenter. Il en a été à l'initiative. Il l'a proposé. Il a contribué.
Il voulait pas le signer, alors que Xavier Niel, à un moment donné, a voulu le signer.
Non.
Il y a eu des allers-retours un peu compliqués. Sans rentrer dans les détails.
Vraiment, là, il faudrait. En tous les cas, il l'a proposé et il l'a signé. Ça, c'est absolument factuel.
Alors, il y a un conseil de déontologie qui a été lancé cette semaine. Enfin, en tout cas, la première séance a eu lieu ce 2 décembre. Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Vous aviez été à l'origine de ce projet, notamment par un rapport que vous l'aviez suggéré au gouvernement. Ça suscite tout un tas de tensions. Laurent Geoffrin le défend dans Libération cette semaine. Étienne Jernel l'attaque dans Le Point. On recevra d'ailleurs les uns et les autres. Étienne Jernel sera notre invité début janvier. C'est pour recueillir les plaintes du public, que la profession très décriée le soit moins, etc. Comment vous voyez ce conseil de déontologie ?
Alors, je n'en suis pas l'initiative. Pour mettre les choses en place, le gouvernement m'a demandé de faire un rapport qui succédait d'ailleurs à un autre rapport, parce que ce n'était pas le premier sur le sujet.
C'est assez classique.
Ouais. Sur la possibilité ou les possibilités de mettre en place un conseil de déontologie comme il en existe dans la plupart des pays européens et qui n'existe pas en France. Donc, après 3 mois d'audition, j'ai dans mon rapport proposé un chemin possible de création du conseil de déontologie.
Donc, vous en êtes un peu à l'origine, alors, du coup.
Alors, j'ai dit, écoutez, si il doit être créé, voilà le chemin auquel il doit, enfin, un chemin possible. En rappelant et en répétant, je pense, ce mot doit figurer au moins une cinquantaine de fois dans le rapport, que ça ne peut être que de l'auto-régulation.
Mais c'est le cas d'ailleurs, c'est ça ce ne que peut dit pas Laurent Geoffrin.
Oui, il faut le répéter et le répéter.
C'est pas le gouvernement qui le gère. Oui.
Ce n'aurait strictement aucun sens, ce serait stupide, ce serait idiot, ce serait vraiment, vraiment absurde. Mmh. Ça ne peut être qu'une initiative de journaliste à l'intérieur de la profession. Si ça n'est autre chose, à ce moment-là, il faut arrêter tout de suite, ne même pas en parler. Ça n'a pas de sens.
C'est la profession prise en étau entre le fait qu'effectivement, si c'est un gouvernement qui est à la manœuvre, ça n'a pas de sens, et en même temps, le fait qu'il faut pouvoir se prémunir contre ces questions de potentiellement d'actionnaires avec d'autres visées. On sait qu'en France, on dégringole sur le palmarès en termes de liberté de la presse à cause de cette question des propriétaires. Mais finalement, la question, est-ce que c'est pas celle-là, et au regard aussi de l'entrée de M. Kretinsky au Monde, on est sur des médias qui globalement sont, on peut le dire, quasiment tous déficitaires. C'est la fameuse idée de ces danseuses. Est-ce qu'ils existent encore, ces grands propriétaires, qui sont prêts à donner de l'argent pour la presse, presque pour la beauté de l'art? Est-ce que cette question de la déontologie, elle n'est pas au cœur finalement de tout ça? Comment on résout cette équation?
Je ne crois pas qu'on dégringole dans le palmarès de la presse à cause des
de la concentration des propriétaires, ça pour le coup.
Ce
que dit RSF.
La presse allemande est excessivement concentrée. Je pourrais vous trouver 10 pays en Europe qui sont tout aussi concentrés
en Espagne,
que les Français.
Par exemple,
et ils ne sont pas du tout. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de lien entre la concentration. Voilà. Par ailleurs, vous êtes ici dans un média où il y a un conseil de déontologie et vous êtes aussi sous le regard, vous l'avez reçu récemment, du CSA et de son président. Donc oui, il y a des dispositifs qui régulent ou qui regardent la manière dont l'information et les contenus sont produits. Donc la question est de savoir, au-delà de l'audiovisuel, est-ce que le reste des médias, est-ce que ce qui se passe sur Internet mérite une régulation? Faut-il mieux qu'elle se fasse par les professionnels eux-mêmes par rapport à leurs critères, dans un cadre de responsabilité, ou faut-il qu'elle se fasse pas du tout, ou d'autres, ou par le juge à la 17e chambre une fois tous les 10 ans, en laissant tout le reste passer, c'est une question qui est ouverte. Chacun, il y a certains qui pensent que c'est mieux de faire quelque chose et d'autres qui pensent que c'est mieux de ne rien faire.